Moi, je m'appelle Jacques, comme deux des 12 apôtres de Jésus. Ce nom vient de Jacob, qui veut dire supplanté. Mais tous les Jacques ne sont pas dominateurs et conquérants. Donc au final, Jacques ne veut pas dire grand-chose. Mais il existe des cultures où les gens portent un nom qui a une signification. Quand j'étais enfant, j'aimais bien les petits livres de bande dessinée qui mettaient en scène les cow-boys et les Indiens. Ce qui m'avait frappé à l'époque est que les Indiens d'Amérique portaient un nom qui avait un sens, comme perle de rosée ou cheval sauvage. Leur nom exprimait un trait de leur personnalité ou un incident de leur vie. Au Moyen-Orient, beaucoup de gens portent des noms à signification religieuse qui incluent l'une de leurs divinités. Le prophète Sophonie porte un nom qui signifie « l'Éternel cache » ou « protège ». Il semble que Sophonie, étant né sous le règne du roi idolâtre Manassé, ses parents, qui étaient probablement très pieux, ont choisi de donner à leur fils un nom qui reflétait la bienveillance de l'Éternel à leur égard. Il les avait protégés alors qu'ils traversaient une époque de l'histoire du royaume de Juda où les gens fidèles à Dieu étaient persécutés. Il semble d'ailleurs que Sophonie fasse allusion à la signification de son nom quand il dit à ses concitoyens « Efforcez-vous d'être humble, peut-être serez-vous mis à l'abri, protégé, caché, au jour de la colère de l'Éternel. » Le titre du livre de Sophonie est « Parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. » Ce qui est étonnant dans ce premier verset est que l'auteur donne non seulement le nom de son père, Cushi, mais aussi celui de ses ancêtres jusqu'à la quatrième génération, ce qui est exceptionnel et particulier à Sophonie. Il remonte ainsi jusqu'à Ézéchias, probablement le célèbre roi de ce nom. Cependant, il ne le désigne pas par roi parce que dans le texte hébreu, immédiatement après s'être présenté, lui et sa lignée, Sophonie dit qu'il a exercé son ministère au temps de Josias, roi de Juda. Or, c'est ce dernier qui compte, et le prophète ne veut pas le ternir en appelant un autre roi. On peut aussi s'étonner qu'il mentionne trois générations entre lui-même et Ézéchias, alors qu'il n'y en a que deux, Amon et Manassé, entre Josias et Ézéchias. Mais il ne manque personne à l'appel, car il faut se rappeler que Manassé a eu un règne de 55 ans. Alors que le prophète Habacuc, par exemple, ne dit pas un mot le concernant, Sophonie joue carte sur table, probablement parce que de toute façon tout le monde savait qu'il était de sang royal et parent de Josias, de ses fils et des autres princes. Pourtant, ses racines nobles ne l'ont pas empêché de faire de sévères reproches à tous les nobles, dont les fils du roi, ce qui montre son courage. Sophonie était d'abord fidèle à l'Éternel et ensuite loyal à sa famille. Parmi les prophètes de l'Éternel, plusieurs avaient leurs entrées au palais du roi, mais Sophonie est celui qui occupe le rang social le plus élevé. Alors que Josias fut un roi pieux qui régna 31 ans au 7e siècle avant Jésus-Christ, ses prédécesseurs, Manassé et Hanon, avait entraîné le peuple à se livrer à des pratiques idolâtres. Manassé bâtit des autels à la divinité Baal. Il fit dresser dans le temple la statue de la déesse Ashéra qu'il avait fabriquée et il vénérait le soleil, la lune et les astres. Sous son règne, les sacrifices d'enfants et l'astrologie prospérèrent. Fait prisonnier et exilé par les Assyriens, il se repent de ses actes impies et de retour en Juda, il essaye de réformer son royaume. Mais son action est trop faible et il est trop tard. Son fils Hanon continue les pratiques idolâtres de son père, mais il est assassiné au bout de 2 ans de règne. Son fils, Josias est alors nommé roi de Juda à sa place, bien qu'il n'ait que 8 ans. Dès la 8e année de son règne, à l'âge de 16 ans, il cherche à faire la volonté de l'Éternel. Et alors qu'il parvient à sa majorité et commence effectivement à exercer le pouvoir, il entreprend de faire disparaître de son royaume les sanctuaires religieux contraires à la loi de Moïse et d'en extraire toutes les idoles. Quelques années plus tard, il fait réparer le temple. Ce faisant, on y retrouve un exemplaire de la loi qui était tombé dans l'oubli. Il s'agit du Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Cette découverte conduit Josias à lancer un mouvement de réforme encore plus vaste que le précédent. Au Moyen-Orient, c'est la Syrie qui domine. Cette puissance avait mis fin au royaume politique israélite des 10 tribus du Nord. Mais Assurbanipal, le dernier grand roi assyrien, peine à garder son empire intact. Cette situation n'échappe pas à Josias qui, la 10e année de son règne, s'affranchit de la suzeraineté de l'Assyrie. 4 ans plus tard, Assurbanipal meurt et cette même année voit émerger le début du nouvel empire babylonien conduit par Nabopolassar, père du futur grand roi Nabuchodonosor. L'année suivante, ce sont les Mèdes qui, sous le roi Cyaxares II, se libèrent de l'Assyrie. Le déclin de l'empire, qui avait déjà commencé sous le roi Assurbanipal, se poursuit inexorablement sous le nouvel empereur, et finalement, les Mèdes et les Chaldéens, alliés aux Scythes, réussissent à prendre et détruire Ninive, capitale de l'Assyrie. Ils en font un tel monceau de ruines qu'il ne reste plus une seule trace visible de ce que fut la gloire de l'Assyrie. 2 siècles plus tard, le général grec Xénophon traversera les ruines de Ninive sans même savoir le nom de la ville ou du peuple qui l'avait habité. Le site de Ninive n'a été redécouvert que récemment, en 1845. Après la chute de Ninive, la Syrie continuera encore à exister pendant 6 ans grâce au soutien de l'Égypte. Mais Nabuchodonosor inflige une défaite sévère aux Égyptiens à la bataille de Carchemish, ce qui sonne le glas final de l'empire assyrien. Cependant, quand Sophonie prononce ses oracles, l'empire assyrien domine toujours le Moyen-Orient car il dit « L'Éternel étendra la main contre le Nord, il fera périr l'Assyrie et il dévastera Ninive pour en faire un désert aride. » On sait que Sophonie a exercé son ministère vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ sous le règne de Josias et avant la chute de Ninive. La façon dont il menace la Syrie semble indiquer que cette puissance joue encore un rôle influent en Palestine, ce qui veut dire que le roi Assurbanipal est encore au pouvoir. Sophonie a donc dû écrire ses prophéties entre les années 640 et 626 avant Jésus-Christ. La royauté de Josias peut être divisée en 3 périodes, à partir de la 8e année de son règne, à partir de la 12e, puis de la 18e, chacune représentant une amélioration sur la précédente. Je lis ce passage qui montre aussi l'état spirituel délabré dans lequel se trouvait le royaume de Juda. Josias avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste. Dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre, et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés d'Achéra, des idoles de bois sculpté et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels des Baals. On abattit les autels à parfum placés sur ces autels. Il coupa les pieux sacrés d'Achéra, brisa les idoles sculptées ou fondues et les réduisit en poussière qu'il dispersa sur les tombes de ceux qui avaient offert des sacrifices à ces faux dieux. Il brûla les ossements des prêtres, des idoles, sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Puis il passa dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et jusqu'en Nephtali et fit de même dans les ruines aux alentours. Il démolit les autels et les pieux sacrés d'Achéra, brisa les statues d'idoles et les réduisit en poussière. Il abattit tous les autels à parfum dans tout le pays d'Israël. Ensuite, il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, afin de purifier le pays et le temple, il envoya ses fonctionnaires pour réparer le temple de l'Éternel, son Dieu. Josias célébra la Pâque à Jérusalem en l'honneur de l'Éternel et l'on immola les agneaux pour cette fête le 14e jour du premier mois. Il rétablit les prêtres dans leurs fonctions et il les encouragea dans leur service du temple de l'Éternel. Aucune Pâque semblable n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel. Ce fut dans la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Fin de citation. Tout porte à croire que c'est dans la deuxième partie du règne de Josias que Sophonie a prononcé ses oracles entre les années 632 et 628 avant Jésus-Christ. En effet, comme je l'ai dit, le roi assyrien Assurbanipal est toujours en vie. Le culte de l'Éternel, qui avait été supprimé sous le règne d'Amon, père de Josias, a été rétabli, ce qui laisse supposer qu'une réforme religieuse est en cours. Mais comme les Israélites adorent encore les faux dieux, c'est que l'œuvre de purification n'est pas terminée et que le réveil religieux, inauguré au début de la troisième période du règne de Josias, n'a pas encore eu lieu. Sophonie a suivi le ministère d'Habacuc d'environ une dizaine d'années. Il était contemporain de la prophétesse Hulda qui annonça la destruction de Jérusalem et qui prédit qu'en raison de sa piété, le roi Josias mourrait avant cette catastrophe, avant la prise de Jérusalem. Sophonie a également connu Jérémie, qui commença à prophétiser la 13e année du règne de Josias, c'est-à-dire avant la réparation du temple et la célébration de la Pâque, mais après la première purification du pays de l'idolâtrie et de la corruption, purification bien partielle, car les prophètes Jérémie et Sophonie dresse un état des lieux du royaume qui reste désastreux. Juda était devenu politiquement prospère, car libre de toute ingérence étrangère, mais spirituellement et moralement, la situation était déplorable parce que le mouvement de réforme religieux entrepris par Josias n'eut qu'un effet superficiel sur la nation. Le livre de Sophonie n'est pas composé de plusieurs discours prophétiques prononcés et rédigés à des époques différentes. L'auteur a écrit un résumé de ses oracles d'un seul jet à la fin de son ministère. Le livre comporte trois sections. Dans la première, le prophète annonce le jugement de Juda et de Jérusalem, par lequel l'Éternel vise à faire disparaître l'idolâtrie et les idolâtres. Les Israélites sont coupables de se livrer à un culte syncrétiste où ils adorent un panthéon de divinités. L'Éternel d'un côté et de l'autre les faux dieux des nations qui les entourent ainsi que quelques-uns empruntés aux Assyriens. Le jugement qui va purifier Juda est évoqué à l'aide du thème du jour de l'Éternel. Ce châtiment atteindra en particulier les dirigeants politiques qui abusent de leur pouvoir. Ce jour, dépeint d'une manière terrifiante, verra une invasion militaire contre Juda. Par ce message, Sophonie veut faire réfléchir son peuple en vue de l'amener à s'humilier et à se soumettre à l'Éternel qui seul peut différer le jugement. La deuxième section du livre annonce le châtiment de diverses nations pour terminer par celui de Jérusalem à cause de la corruption des diverses catégories de responsables du peuple. L'Éternel est présent au milieu de la ville pour y exercer son jugement. Il a d'ailleurs déjà puni ses habitants, mais comme ceux-ci ne se sont pas repentis, le pays sera dévasté par une invasion militaire. La troisième et dernière section du livre évoque le salut. L'Éternel transformera des étrangers de telle sorte qu'ils lui rendront un culte et il purifiera son peuple afin qu'un reste rescapé obéisse à sa loi. Sophonie mentionne alors la joie que ce salut procurera au peuple de Dieu, mais aussi à l'Éternel lui-même. La prophétie de Sophonie se caractérise par sa vue d'ensemble, son coup d'œil, grâce auquel il embrasse toutes les nations et tous les siècles, mais d'une manière vague et sobre. Il n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ses prédécesseurs, car les thèmes qu'il aborde se trouvent déjà chez les autres prophètes, comme Amos, Ésaïe, Michée et Habacuc. Le langage dont il se sert pour décrire le jour de l'Éternel se retrouve chez Joël, et l'image du troupeau de brebis éclopées rassemblées par l'Éternel provient de Michée. L'invasion babylonienne qui doit amener la destruction de Jérusalem et l'exil a déjà été prédite par Ésaïe et Michée près d'un siècle plus tôt. L'originalité du message de Sophonie réside dans l'application à sa génération des thèmes du jugement de Juda par l'Éternel. Avec Jérémie, Habacuc puis Ézéchiel, Sophonie fait partie des prophètes qui annoncent ces événements comme devant survenir en leur temps, c'est-à-dire à la génération à laquelle ils appartiennent. Par ailleurs, comme Sophonie n'est pas poète, il emprunte parfois et de manière astucieuse les modes d'expression de ceux qui l'ont précédé, ce qui donne du relief à sa prophétie. Sophonie est systématique dans son examen de l'état moral et religieux de son peuple. Il est calme et sérieux, mais cela ne l'empêche pas d'être perturbé et indigné par la présence du mal, ce qui se traduit par un style énergique. On peut aussi admirer son courage à cause de la franchise avec laquelle il condamne le péché partout où il le rencontre, même chez les princes. La prédication de Sophonie a contribué aux efforts de réforme religieuse entrepris par le bon roi Josias. Mais là n'était pas son but, car depuis longtemps déjà, les dés étaient jetés et Juda était mûr pour le jugement. Cependant, si le châtiment était inévitable, il pouvait encore être différé et le ministère de Sophonie a permis d'aider à la constitution d'un peuple de gens humbles, au cœur non partagé, qui adore l'Éternel seul, un petit reste saint qui échappera au jugement. Comme la plus grande partie de la nation était déjà perdue pour Dieu, les efforts énergiques, voire même héroïques de Josias n'ont réussi qu'à couvrir d'un vernis extérieur la corruption qui était au fond des cœurs des Israélites. Le règne de Josias et les ministères combinés de Sophonie et de Jérémie furent pour Juda un temps de répit, mais c'était le calme qui précède la tempête qui allait bientôt éclater. L'enseignement de Sophonie concernant le salut est intéressant. Il prêche la transformation intérieure qui se traduit différemment chez le païen et l'israélite. Le premier doit abandonner les idoles pour se consacrer exclusivement au culte de l'Éternel et pour le servir, tandis que pour le deuxième, le changement doit se manifester par un comportement droit et juste envers le prochain. Comme chez Ésaïe et Michée, ce renouvellement intérieur aura comme effet la réconciliation et la paix entre les peuples. À l'instar d'autres prophètes, Sophonie enseigne que le salut ne s'étendra pas à l'ensemble de la nation d'Israël, mais à un petit reste épuré, tandis que les autres, qu'il appelle les orgueilleux, seront éliminés. Ce salut bénéficiera également à des hommes de toutes les nations. Les promesses de la nouvelle alliance faites aux Israélites, qu'on trouve chez Jérémie et Ézéchiel, seront applicables aux étrangers. Ce sera le même salut pour tous, celui de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, un nouveau peuple de Dieu se forme à partir de l'Israël ancien qui est la souche. Mais les Juifs qui rejettent la bonne nouvelle se retranchent du peuple de Dieu et c'est seulement un petit reste d'Israël qui a part au salut, tandis que les non-Juifs qui mettent leur foi dans le Messie d'Israël deviennent de véritables enfants d'Abraham, membres du peuple de Dieu. L'ancien Israël, dont sont retranchés les Juifs incrédules et auxquels sont incorporés les non-Juifs qui ont foi en Jésus, forme le nouvel Israël et c'est lui qui bénéficie des promesses des prophètes. Sophonie souligne aussi l'universalité du salut quand il dit deux fois que le territoire du peuple de Dieu s'élargira pour englober celui de ses ennemis et s'étendre à toute la terre. Enfin, il faut souligner l'insistance de Sophonie sur le thème de l'humilité comme disposition intérieure nécessaire pour échapper au jugement et pour recevoir le salut. Ce sont ceux qui se reconnaissent dépendants de l'Éternel parce que spirituellement pauvres et nécessiteux qui sont aptes à recevoir la grâce de Dieu.